Hélène Sauvignon avec Didier Mélière.
Nous voici donc au troisième entretien d'une série consacrée à transmettre à un public les fondamentaux de notre foi de façon attractive et instructive. Dans l'entretien précédent, Didier Mélière, vous nous avez expliqué que le cheminement d'un message dans le cerveau des auditeurs est un phénomène actif en 5 étapes, successivement entendre, écouter, comprendre, mémoriser et enfin choisir entre rejet, indifférence et adhésion. Chaque étape nécessite un effort de la part des auditeurs. Nous avons enfin découvert que pour que les auditeurs aient envie de faire cet effort, l'orateur, qu'il soit clair ou laïque, doit utiliser des outils. Didier Mélière, pourriez-vous nous rappeler quels sont ces outils ?
Ce sont les outils ACMA. Ils ont été mis au point en faisant travailler un millier de prédicateurs. Détaillons ACMA. A pour accrocher. C pour convaincre les intelligences. Le deuxième C pour convaincre les cœurs. M pour aider à mémoriser. Et A pour activer. Ces instruments servent à rendre l'exposé ou l'homélie plus captivant, plus instructif. Car, nous allons le voir, il faut davantage d'outils pour un exposé oral que pour la rédaction d'un écrit. L'oral demande donc plus de travail que l'écrit. Je vous propose de nous arrêter un instant sur les avantages et les inconvénients respectifs de l'écrit et de l'oral. L'écrit a deux avantages énormes. Il permet aux lecteurs d'aller à leur rythme et ensuite, s'ils le désirent, d'y revenir. En revanche, il a un défaut. Il ne permet pas à l'écrivain de transmettre sa passion directement, de cœur à cœur, les yeux dans les yeux. L'oral, lui, a trois inconvénients majeurs. La qualité de la transmission orale dépend des capacités de l'orateur, qui sont malheureusement fort variables. Le rythme est imposé par l'orateur et peut ne pas convenir à certains auditeurs. Enfin, l'auditeur n'a pas la possibilité de réentendre le message ultérieurement, sauf si on laisse un texte écrit. Mais l'oral a un avantage essentiel. Seul l'oral permet de transmettre directement notre passion. Or, la foi est une passion. Encore faut-il que l'orateur soit réellement passionné et fasse ce qu'il faut pour que cette passion soit perçu, car il ne suffit pas qu'il soit passionné dans son cœur. Il faut aussi que cette passion soit perçue par les auditeurs. Nous verrons comment.
Et si un auditeur n'utilise pas ces outils, que risque-t-il de se passer ?
Il s'expose à trois erreurs qui vont littéralement torpiller l'écoute. Il faut les connaître pour comprendre l'importance des outils. Les deux premières séries d'erreurs sont communes à l'écrit et à l'oral. La troisième série ne concerne que l'oral. La préparation d'une communication orale demande donc plus de travail que celle d'un écrit. Alors voyons ces erreurs pour comprendre l'importance des outils. Première série d'erreurs, celle qui concerne l'objectif et les messages. La paraphrase génère chez les auditeurs adultes le sentiment que l'orateur les prend pour des gamins ou qu'il n'a pas travaillé suffisamment le fond. L'improvisation sans objectif précis conduit à des méandres dont on ne retiendra au mieux que quelques brides. L'inadaptation au niveau de l'auditoire fait qu'ils sont soit inintéressés si le niveau est trop bas, soit largués s'il est trop haut. L'enchaînement de lieux communs entraîne toujours le désintérêt. Une durée excessive provoque soit l'énervement, soit le sommeil, d'où l'importance d'avoir devant soi une pendule. La répétition d'idées très souvent développées ou insuffisamment nourries fait qu'elles sont perçues comme des poncifs, même les idées les plus importantes. La surabondance d'idées ou de messages submerge les auditeurs qui n'arrivent pas à suivre et généralement ne retiennent rien. Première série, celle qui concerne l'objectif et les messages. Deuxième série, les erreurs de structuration du contenu. L'absence de plan et d'étapes empêche de suivre et de comprendre. Je vous avais cité une phrase du pape François dans l'Evangelii Gaudium la dernière fois. L'utilisation de mots spécialisés ou à sens variable, donc imprécis, expose à ne rien comprendre, ou pire, à faire des contresens. L'absence de questions, suivie d'un temps de silence destiné à faire réfléchir, réduit les chances d'appropriation des messages. Lorsque la conclusion n'est pas annoncée, beaucoup ne l'entendent pas. Si la conclusion ne résume pas le parcours effectué, les chances de mémorisation des idées fortes sont affaiblies. Enfin, l'absence de propositions concrètes pour la vie quotidienne fait que l'exposé restera purement théorique dans les nuages, sans application pratique dans nos vies.
Question de vie, Hélène Sauvignon s'entretient avec Didier Mélière.
Les erreurs concernant l'objectif, les erreurs concernant la structuration. Maintenant, voyons la troisième série d'erreurs. Celle qui ne concerne que l'expression orale. Un orateur qui ne regarde pas son auditoire capte peu son attention. Il donne l'impression de ne pas aimer ses auditeurs et il perd la possibilité de savoir s'ils suivent. La lecture d'un devoir, même s'il est très bien composé, a très peu de chances d'emporter la conviction des auditeurs. La lecture tue la passion. Une voix monotone sème l'ennui et le sommeil. L'absence d'intonation ou un ton professoral ou pontifiant sont interprétés comme de la condescendance et finalement, comme un mépris des auditeurs. Une attitude figée, sans gestuelle ni expression appropriée du visage, donne l'impression que l'orateur accomplit son devoir et ne croit pas à ce qu'il dit. Chacune de ces erreurs contribue à rendre moins audible cette parole de Dieu que nous voudrions tant faire aimer. Chaque fois, c'est l'Église qui devient un peu moins audible. Pour ne pas les commettre, nous devons travailler. Travailler en amont pour acquérir une bonne technique et travailler ponctuellement avant chaque exposé ou chaque homélie pour se donner le maximum de chances de toucher et les intelligences et les cœurs.
Alors, cette liste d'embûches-là, possible, est-ce qu'elle ne risque pas de décourager nos braves orateurs ?
Non. Les difficultés ne sont pas des obstacles, mais des stimulants. Notre foi ne nous pousse pas au découragement, mais à travailler pour perfectionner notre manière de transmettre. Même si nous n'avons qu'un seul talent, et non pas cinq, rappelez-vous la parabole. Nos défauts peuvent tous être dépassés, et tous devenir des tremplins pour mieux communiquer. Même l'orateur le plus malhabile progresse en s'exerçant. C'est ce que m'ont appris un millier de prédicateurs. Pour mieux transmettre Jésus-Christ et son enseignement, aucun effort ne doit paraître excessif. Ce que certains considèrent comme une perte de temps garantit aux orateurs une plus grande efficacité et leur donne un surplus d'assurance. Travailler sa manière de communiquer, c'est hisser la lumière sur le chandelier. Rappelez-vous Matthieu 5. La hisser sur le chandelier pour qu'elle éclaire davantage, pour qu'elle devienne la lumière du monde.
Alors, Didier Mélière, lors du prochain entretien, vous allez nous apprendre à mettre la lumière sur le chandelier avec les outils ACMA, A-C-C-M-A ?
Auparavant, Hélène, il nous faut apprendre à centrer l'exposé sur un objectif précis. Il sera le fil rouge de l'exposé ou de l'homélie. Sinon, on dira beaucoup de choses, mais il en restera très peu.